sur sa ville, CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis.
Oh, this is incredible. Mesdames, messieurs, le retour du 96.9. Le retour du 96.9. Les salles, les nouvelles. Du lundi au jeudi, de 16h à 18h. Les salles, des nouvelles.
Jour de relais avec vous jusqu'à 18h. Et on a notre ami Éric Lantier qui est avec nous. Salut Éric, ça va bien?
Ben oui, toi?
Yes, en pleine forme. On a quelques beaux sujets ensemble, à commencer par l'inertie du gouvernement à la garde des ressortissants canadiens en Haïti.
Ben oui, ben là.
Ça bouge pas vite, hein. J'étais sûr qu'il allait régler ça rapidement, cette question-là, moi.
Ben oui, parce que justement, le gouvernement Trudeau était dans la tourmente avec toute la question de SNC-Lavalin. Puis là, il y avait une occasion en or de redorer
son blason,
puis
dire,
on est les héros.
Puis ils ont passé, note, ils ont passé à côté.
Ils ont passé à côté. Écoute, depuis mercredi, là, moi, il y avait 26 personnes que je connais qui étaient pris dans le sud d'Haïti. Il y avait 200 kilomètres de route à faire pour se rendre à Port-au-Prince, mais les routes étaient bloquées. Et là, continuellement, il essayait de rentrer en communication avec le département des affaires mondiales, avec l'armée, la défense nationale. Personne voulait bouger. Il disait toujours, on est en attente et on observe. Et là, pendant ce temps-là, il y avait des gens là qui allaient manquer de médicaments. S'ils partaient pas hier, là, il y avait 3 personnes sur les 26 qui allaient manquer de médicaments. Puis le gouvernement a dit non, on fera rien.
Hey.
J'en revenais pas.
Mais là, il y en a combien qui sont rentrés samedi? On a eu un espèce de voyage de ressortissants. Il y a des gens qui sont arrivés.
Exactement. Mais ce qui est arrivé, ce groupe-là de 26 qui était comme pris dans le sud, parce que c'est un show de boucan. Les 113 qui étaient tout près de Port-au-Prince, qui étaient sur le bord de la mer, c'était pas long. Ça coûtait pas beaucoup d'argent parce que c'était assez près. Mais quand t'as 200 kilomètres à faire, là, c'est un peu plus compliqué. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un groupe de missionnaires qui étaient voisins de ces gens-là, qui faisaient de l'œuvre humanitaire, qui sont dit, hey, ben nous, on connaît quelqu'un qui a un avion, qui est aux États-Unis, il va venir vous chercher, puis il va faire 2 voyages. Puis là, ça coûtait $75 par personne.
Okay.
Puis ils ont pu, par leurs propres moyens...
S'arranger tout seul. Ça, c'est les 26 qui étaient au sud, tu me dis.
Exactement, au sud-ouest, dans la région des Cailles.
Donc, eux sont revenus, mais c'est pas grâce à Trudeau, là.
Pas du tout. Mais là, écoute, quand il y avait eu un conflit armé sanglant au Liban, le gouvernement a envoyé des troupes, il a sorti les Canadiens de peine et de misère. Puis là, c'était juste un petit conflit. Il y avait juste à amener un hélicoptère ou deux, aller les chercher, puis une fois arrivé à l'aéroport de Port-au-Prince, il y avait aucun danger, là, il y avait pas de bombe ou de quoi que ce soit. Mais là, le gouvernement Trudeau dit non, on est en attente, on observe. Voyons donc, je veux dire, c'est nos concitoyens. À quoi ça sert l'armée si on peut pas envoyer des hélicoptères? À quoi ça sert investir dans des forces nationales?
Mais t'as parfaitement raison là-dessus, parce que, je veux dire, on paye pour ça. Parce que en cas d'urgence, on veut que ces gens-là soient là pour nous.
Ben oui.
Puis, mais t'as tellement raison. Le gouvernement Trudeau aurait pu changer l'agenda avec ça. Puis c'est un très mauvais move politique, ça.
Non, un très mauvais calcul politique. Écoute, ils se sont tirés dans le pied parce qu'ils auraient pu attirer l'attention sur eux, montrer qu'ils sont des héros, montrer par exemple des photos puis des images, l'hélicoptère qui descend puis là qui vient les chercher puis voit tous ces gens-là qui rentrent,
ben oui.
Le gros sourire
avec les familles qui les accueillent à bras ouverts, ça c'est payant politiquement.
Voyons donc, ils ont passé à côté.
Excellent. J'aimerais ça avoir ton impression sur la réforme des commissions scolaires qui s'en vient, étant un ancien directeur d'école, mon cher Éric.
Mais moi, écoute, ça fait longtemps que je m'élite là-dessus, parce que je me dis, il est temps qu'on arrête d'investir dans les structures puis qu'on investisse dans les services directs aux élèves. Et moi, je pense que en ce moment, on a 72 commissions scolaires francophones. On aurait besoin de maximum 17, une par région administrative du Québec. À l'époque, là, quand ça a été conçu, là, Internet n'existait pas, Zoom, Skype, Hangout n'existait pas. On n'avait pas ces moyens technologiques pour se rencontrer. Et donc, il fallait avoir des commissions scolaires qui était quand même suffisamment proche des écoles.
Puis moi, je te relancerai parce que au-delà de la technologie pour la communication, la technologie pour la gestion aussi, veux dire, des logiciels de gestion incroyables. Maintenant, ça existe, ça n'existait pas à l'époque, là, c'était genre papier-crayon, mais on est passé à quelque chose d'autre, là.
Tout à fait. Puis oui, toute la question de la gestion de la paie, maintenant avec l'informatisation, on peut régler ça assez rapidement si on fait pas affaire avec Phoenix, évidemment.
Elle est bien bonne, celle-là.
Fallait que je la lance. Mais c'est ça, c'est que on a besoin de moins de structures puis un peu plus de gens justement qui sont des spécialistes pour donner des services aux élèves, des orthopédagogues, des psychologues, même des travailleurs sociaux dans certains milieux. Puis si on a seulement un centre de ressources par région, c'est suffisant. C'est suffisant pour assurer une bonne gestion des ressources sur le terrain, équiper les enseignants, donner de la formation et ça, c'est là qu'on doit investir l'argent et arrêter de justement payer des déjeuners aux ceux qui travaillent dans les commissions scolaires.
Mais oui.
Tout ça. C'est fini, c'est révolu cette saison-là. Là.
Mais de toute façon, les services scolaires, c'est un service. Faut livrer du service. On n'est pas dans la production de quoi que ce soit. Puis, je veux dire, une fois que les infrastructures sont en place puis qu'on les entretient, normalement, il devrait y avoir de déboursés supplémentaires. Là.
Non, c'est ça. Puis ce qui arrive, c'est que quand on crée des entités comme les commissions scolaires, surtout avec des élections scolaires où est-ce qu'il y a entre 4 et 5 % de participation, on voit que c'est un fiasco total.
Mais démocratiquement, ça fonctionne pas, ça, c'est sûr et certain.
Exactement. Puis ce qui arrive, c'est que c'est devenu trop administratif. C'est devenu trop un centre de gestion et c'est pas un centre de distribution de ressources.
C'est déconnecté de son milieu aussi, là, comme tu l'as dit, avec 4% de participation aux élections. C'est pas vrai qu'ils ont une pression de la population pour livrer leur mandat. Il y a personne qui s'en soucie, là.
Non, tout à fait. Moi, je dis, oui, il doit y avoir des élections pour avoir une représentativité des parents, mais ça doit se passer dans les écoles.
Ouais.
T'as pas besoin d'avoir ça à l'échelle de la commission scolaire, parce que d'une école à l'autre,
les réalités changent.
À l'autre école.
Ben, c'est ça.
Pardon?
Les réalités changent d'une école à l'autre, là.
Eh ben, exactement. Exactement, parce que moi, si mon enfant, par exemple, il y a un problème avec la cour d'école, l'asphalte est toute brisée, puis il y a des enfants qui se blessent, mais l'autre école à côté, c'est peut-être une autre réalité, c'est peut-être le gymnase qui a un problème, ou c'est peut-être un prof qu'il faudrait qu'on mette à la porte. Puis là, je veux dire, d'une école à l'autre, ça change, puis qu'il y a une représentativité des parents au sein des écoles, parfait. Puis ce groupe de parents, il se nomme un parent qui est représentant sur un comité dans ce nouveau centre de ressources qui est régional. Ça serait correct. T'as pas besoin de passer dans des élections, puis le directeur général des élections. Tu fais quelque chose qui est supervisé à l'intérieur de l'école. Les parents sont contents. Ils ont les représentants qu'ils veulent. Puis s'ils n'aiment pas l'année suivante, ils échangent.
Ils échangent, oui, exactement. Puis moi, j'aime bien l'idée, justement, de décentraliser, c'est-à-dire de redonner le pouvoir aux gens par école davantage que par commission scolaire, parce que c'est vrai que ces gens-là vivent des réalités qui sont différentes, puis ça veut dire que c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes moyens non plus pour les traiter. Donc, c'est clair que ça serait une bonne chose. Et moi, j'en profiterais pendant qu'on est sur l'école. Qu'est-ce que tu penses de la maternelle 4 ans?
Ben, écoute, moi, je crois que la maternelle 4 ans, c'est mieux que la garderie pour une raison bien simple. C'est que quand on passe en mode maternelle, on passe en mode scolaire et on a une préoccupation du développement de l'enfant sur le plan pédagogique, académique. On veut le préparer aux apprentissages. On n'est pas juste là pour le préparer à la socialisation. On n'est pas juste là à le préparer à ce qu'il s'entende bien avec ses amis, quoique c'est une chose importante, c'est un des mandats de l'école. Mais on va au-delà, on le prépare. Ça veut pas dire qu'il rentre dans une classe, là, assis sur un pupitre.
Non, c'est ça.
Mais ça veut dire qu'il est préparé à ce qui s'en vient, à la prochaine étape. Et plus jeune on détecte les retards ou les manques ou les obstacles, ben plus jeune on peut l'équiper, puis l'encadrer, puis diriger les parents à ce qu'ils soient suivis par des spécialistes, et ça peut aider énormément. Moi, je suis d'accord avec ça.
Donc, dans le bras de fer entre le gouvernement actuellement et les services de garde, toi, tu y vas avec la CAQ.
Ben oui, tout à fait. Parce que, écoute, c'est toute une question. J'entends souvent des entrevues, je lis des reportages là-dessus, puis écoute, c'est toute une question syndicale.
C'est une question économique. C'est un secteur d'activité économique. Le veut pas, avec la mise en place des maternelles 4 ans, le service de garde, c'est une clientèle qui perd.
Ah ben tout à fait. Mais écoute, mais moi j'ai toujours cru qu'on devrait donner l'argent aux parents, puis les parents décident s'ils font garder par la grand-mère, s'ils font garder par la voisine, par le CPE.
Ou qu'ils se gardent toutes seules à la maison.
Tout à fait. Non, mais qu'ils se gardent toutes seules à la maison par un parent présent.
Non, non, mais c'est une blague. Rapidement, Éric, on avait comme sujet aussi la commission spéciale sur la prostitution juvénile.
Aïe, ça me touche.
On est-ce capable de faire ça rapidement ou faudrait rentrer dans les décales de la chose?
Non, moi je te dis, rapidement c'est important parce que 50% des victimes de la prostitution sont des mineurs et c'est pour ça que ça rapporte 300 000 $ par année au crime organisé et c'est des victimes, c'est des jeunes.
Je mettrais beaucoup plus que ça.
Ah bien sûr, mais c'est un premier pas. Moi, ouais. C'est un premier pas.
Ouais.
Mais je pense, tu sais, dans tout le débat de la prostitution, on peut dire oui, mais s'il y a des adultes qu'on s'entende qui veulent faire ça pour faire de l'argent. Mais quand on a 13-14 ans,
ah non, mais ça, c'est inacceptable. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, quand on n'a pas les moyens intellectuels de prendre cette décision-là, c'est une décision qui est quand même assez critique. C'est clairement non.
Il faut arrêter de penser aussi qu'il y a juste des hommes majeurs qui vont recruter ces petites-là. Souvent, c'est une petite leader qui va faire du recrutement pour ces doudes-là parce qu'elle se fait plus gâter que les autres. C'est comme ça que ça fonctionne.
Mm-hmm. Oui, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Oui, moi, j'ai connu une jeune femme comme ça, puis elle était recruteuse pour, pas pour le crime organisé, mais pour un homme. Elle allait chercher des amis pour que ces filles-là dansent devant cet homme-là. Mm-hmm. Et elle a réalisé plus tard, des années plus tard, le tort qu'elle a fait à ses amis. Et c'est là qu'elle a pris conscience du mal qu'elle a fait.
Elle n'avait pas compris, oui.
Non, c'est ça. Elle voyait pas l'ampleur puis l'impact. Puis c'est pour ça qu'avec, comme point de départ, une commission parlementaire, au moins, on va pouvoir se documenter, questionner les spécialistes là-dessus, se donner des pistes de solutions. Puis après ça, donner un plan de match un peu plus musclé pour dire comment on peut contrer ça puis comment on peut préparer les jeunes avant qu'ils se rendent là. Parce que souvent, faut commencer quand ils sont au primaire.
Exactement.
Pour les préparer puis leur donner des points de repère en disant « Tombez pas dans ce piège-là ».
Ben, la sensibilisation, l'éducation, on va se le dire, c'est la solution à pas mal tous les maux, là, hein?
Dans bien des cas, oui, parce que c'est là que ça prépare le jeune à avoir une sensibilité puis un discernement.
Excellent. Hey, écoute, Éric, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. On te remercie pour ce beau segment.
Merci, Éric.
Yeah.
Et on se parle lundi prochain, mon cher ami.
Excellent.
Yes. Bonne émission. Bye bye. C'était Éric Lantier, notre chroniqueur du lundi. C'est possible de suivre ce que Éric fait. Il publie fréquemment des billets sur le www.ericlantier.net. Ouais. Donc, ne vous trompez pas, ne vous méfondez pas. C'est le .net pour suivre Éric Lantier. Un blogueur, un collaborateur de longue date ici à CGMD. Et nous, on vous quitte pour une rapide pause et on revient tout de suite de l'autre côté pour essayer de vider nos sacs de nouvelles.
Les sales!